Bonjour à toutes et à tous. Je remercie particulièrement Vigard Strelo de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de présenter cette communication ce matin ici à Constance pour le 25e anniversaire de ces manifestations ici, et en particulier en hommage au docteur Gottfried Herzka, à qui nous devons beaucoup. Vision intérieure et guérison, à l'ère du visuel imposé, réel ou virtuel, les films, Internet, toutes les images que nous subissons, la vision intérieure par le rêve ou par l'imagination créatrice est un recours puissant pour éveiller la conscience humaine. Elle amplifie le fonctionnement cérébral.
Meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich bei Wiegert dafür, dass er mich eingeladen hat, hier in Konstanz heute einen Vortrag zu halten. Und ich freue mich auch, hier zu sein anlässlich des 25-jährigen Jubiläums und auch in Erinnerung an Dr. Herzka, dem wir sehr viel zu verdanken haben. Mein Thema lautet innere Vision und Heilung. In einem Zeitalter, wo das Visuelle einem vorgegeben wird, sei es real oder auch virtuell, durch Filme, durch das Internet, wird die innere Vision durch den Traum oder auch die kreative Vorstellungskraft zu einem kraftvollen Mittel, um das menschliche Bewusstsein zu erwecken. Damit werden auch die Gehirnfunktionen erweitert.
À ce titre, Saint-Hildegard fournit dans ses écrits de nombreuses images et allégories capables de susciter la guérison psychosomatique et l'éveil spirituel. Elle interpelle nos profondeurs psychiques par l'exposé de 35 couples de vices et de vertus sous forme de personnages qui s'opposent verbalement. Les paroles des vertus avec leurs représentations imagées peuvent alors résonner comme des paroles de guérison selon les besoins de chacun. Une méthode efficace consiste en un accompagnement verbal par un thérapeute, en individuel ou en groupe, avec préparation à la contemplation, dans une éthique chrétienne qui rejoint toute l'œuvre littéraire et musicale de Saint-Hildegard.
Die heilige Hildegard hat in ihren Schriften zahlreiche Bilder und Allegorien bereitgestellt, mit denen eine psychosomatische Heilung und auch spirituelle Erweckung erfolgen können. Sie spricht unser psychisches Innerstes an mit der Beschreibung der 35 Laster und Tugenden in Form von Personen, die sich verbal einander gegenübergestellt werden. Die Worte der Tugenden mit ihren bildhaften Darstellungen können also als Worte der Heilung entsprechend der Bedürfnisse jedes Einzelnen widerhallen. Eine wirksame Methode besteht in der therapeutischen Begleitung in Form von Einzel- oder Gruppengesprächen mit der Vorbereitung zur inneren Versunkenheit in Form einer christlichen Ethik, in der letztlich das gesamte literarische und musikalische Werk der heiligen Hildegard vereint wird.
La psychothérapie de Hildegard se déduit à partir de deux ouvrages, le livre des mérites de la vie, LMV, et le Scribias. 35 vices et vertus sont dépeints sous forme d'allégories. Les deux thérapeutes allemands, pionniers de la médecine hildegardienne, Dr. Gottfried Herzka et Vigard Strelo, ont souligné dès le début l'aspect fondamental des soins de l'âme prioritaires par rapport à ceux du corps, déjà dans le manuel de la médecine de Saint-Hildegard. Et puis, dans l'ouvrage de Vigard Strelo, « La guérison du corps et de l'esprit » selon Hildegard de Bingen. Cet ouvrage a le mérite de reprendre de larges passages de la plume de l'abbesse, rassemble le fruit d'une longue expérience et propose des solutions pertinentes.
Ihre Psychotherapie lässt sich von zwei Werken ableiten, dem LVM und der Scivias. 53 Tugenden und Laster werden dort in Form von Allegorien beschrieben. Die beiden deutschen Therapeuten, Pioniere der Hildegard-Medizin, Dr. Gottfried Herzger und Wigard Strehlow, haben noch einmal unterstrichen, wie wichtig das Seelenheil ist für das körperliche Wohlbefinden, und zwar in ihrem Handbuch der Hildegard-Medizin. Wigard Strehlow erklärt zudem methodisch in dem Buch Heilung von Körper und Seele nach Hildegard von Bingen dasselbe. Dieses Werk hat den Vorzug, dass hierin lange Passagen aus der Feder der Schwester zusammengefasst werden und auch passende Lösungen angeboten werden.
Dans cette approche, comme c'est habituel en psychothérapie non analytique, c'est-à-dire les psychothérapies dites brèves de nos jours, de courte durée, il est fondamental de tenir compte ou de susciter des visions intérieures en chaque patient selon son propre univers, que ce soit à partir des rêves, et Hildegard en a décrit 5 sortes, ou de l'imaginaire de chacun, stimulé par ses allégories des vices et des vertus qu'elle apporte dans ses 2 ouvrages, ce mode de travail intérieur, déjà réalisé dans la contemplation et la prière personnelle, peut être proposé en accompagnement thérapeutique par un expert. Les mécanismes qui sous-tendent ce travail sont probablement, sur le plan neurologique, une harmonisation des fonctionnements mentaux des 2 hémisphères cérébraux dans un certain état modifié de conscience. En ce qui concerne la psychologie, cela correspond à un plus grand dialogue entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient, bien sûr, on en parle depuis plus d'un siècle avec Freud et puis aussi Carl Gustav Jung, qui s'illustra non loin d'ici, à Zurich, qui était né d'ailleurs sur les bords du lac de Constance, et qui, au-delà d'une libido simplement sexuelle, annoncée par Freud, révèle une libido force vitale fondamentale de l'être humain, raison d'ailleurs pour laquelle il s'est fâché définitivement, enfin du moins c'est Freud qui s'est fâché avec lui définitivement. Carl Gustav Jung annonce en fait un processus auto-pédagogique qui amène à une unification intérieure, processus qu'il appelle individuation. Et je vais montrer comme quoi la place d'Hildegard est tout à fait pertinente dans cette optique d'unification intérieure.
Wie es in der klassischen nicht-analytischen Psychotherapie üblich ist, ist es vor allen Dingen wichtig, dass man diese inneren Visionen eines jeden Patienten entsprechend seines Universums berücksichtigt oder auch hervorruft. Und diese Art der inneren Arbeit, die bereits auch im persönlichen Gebet erfolgen kann, kann auch in Verbindung mit einem Therapeuten angeboten werden. Die Mechanismen, die hier zugrunde liegen, sind vermutlich die Harmonisierung der mentalen Prozesse der beiden Gehirnhälften in einem bestimmten veränderten Bewusstseinszustand. Das wiederum entspricht in psychologischer Hinsicht einer Art Erleichterung der Wechselwirkung des inneren Dialoges zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten.
C'est pourquoi il me semble pertinent d'avancer que les visions intérieures suscitées grâce aux descriptions imagées de Saint-Hildegard, qui fut une conscience inspirée et qui l'est encore pour nous de nos jours, et du fait de l'imagination créatrice de chacun, tout cela peut conduire à des guérisons intérieures, voire à un développement personnel des plus harmonieux.
Aus diesem Grund scheint es mir angebracht zu behaupten, dass diese hervorgerufenen inneren Visionen dank der bildhaften Beschreibung der heiligen Hildegard zu einer inneren Heilung führen können, vielleicht sogar zu einer persönlichen, harmonischeren Entwicklung.
Soulignons quelques principes de la psychothérapie hildegardienne. Saint Hildegarde donne une conception unifiée de l'être humain avec interaction corps, âme, esprit. L'homme est en microcosme au sein de l'univers macrocosme. L'âme commande au corps, comme la sève dans l'arbre, dit-elle. Elle est comme le pouvoir qu'a l'arbre de faire pousser des fruits. L'homme est en interdépendance avec l'univers et surtout la guérison vient de Dieu seul. Ainsi, l'état de bien-être spirituel résulte-t-il à la fois d'un puisement à nos forces profondes, le centre divin, et aux énergies de l'univers créé par Dieu.
Heben wir vielleicht einige Grundsätze der Psychotherapie nach Hildegard hervor. Die heilige Hildegard gibt ein vereinheitlichtes oder zeichnet ein vereinheitlichtes Bild des Menschen mit der Wechselwirkung zwischen Körper, Seele und Geist. Der Mensch ist demnach ein Mikrokosmos innerhalb des Universums Makrokosmos. Die Seele leitet den Körper, so wie der Saft im Baum. Er ist die Kraft, die letztlich die Früchte gedeihen lässt, sagt sie. Der Mensch ist eng verwoben mit dem Universum. Vor allem stammt die Heilung von Gott allein. Somit entsteht also ein spirituelles Wohlbefinden durch die Entfaltung unserer tiefen inneren Kräfte, dem göttlichen Zentrum, und die Energien des Universums, das von Gott geschaffen worden ist.
Par révélation, la visionnaire bénédictine expose l'opposition de 35 faiblesses égoïstes, les vices, et de 35 forces positives, les vertus, au sein de l'âme humaine, plus ou moins inconsciente, qu'elle expose, comme nous l'avons vu, dans les deux ouvrages. Par exemple, le sentiment de résignation qui peut entraîner des comportements de lâcheté ou de compromission est contrebalancé par le sentiment de victoire de Dieu sur les ténèbres, ou encore le souci des choses terrestres par l'aspiration aux choses célestes. Nous verrons tout à l'heure un peu le catalogue de ces 35 forces. La thérapie va transmuer en fait les faiblesses en forces par un travail de prise de conscience volontaire et soutenu, éclairé par la parole de Dieu, notamment les psaumes et l'évangile. Les remèdes physiques de Saint Hildegard tirés de la nature peuvent aussi être des appoints d'importance, en particulier les pierres. Il ne s'agit pas, en tout cas ici, de magie en voulant dominer la nature, puisque tout est révélé, elle le précise dans le livre des œuvres divines, son dernier ouvrage, et est relatif à la foi et à l'espérance en Dieu et en sa parole, telle que nous le donne en exemple sa vie de religieuse.
Die benediktinische Visionärin legt also eine Gegenüberstellung der 35 egoistischen Schwächen der Laster und der 35 starken positiven Stärken der Tugenden dar. Beispielsweise das Gefühl der Resignation kann zur Feigheit führen oder zu Zugeständnissen, wird aber ausgeglichen durch das Gefühl des Sieges Gottes über die Finsternis. Oder auch die Sorge um irdische Dinge kann ausgeglichen werden durch das Streben nach dem Himmlischen und so weiter. Sie werden gleich sehen, was ich damit meine. Die Therapie kann also die Schwächen zu Stärken machen und das mittels einer Bewusstseinswerdung, die freiwillig und beständig erfolgt und durch das Wort Gottes erhellt wird, insbesondere durch die Psalmen und das Evangelium. Die natürlichen Heilmittel der heiligen Hildegard, die sie auch in ihren Büchern beschreibt, können hier sicherlich eine wichtige Unterstützung bieten, insbesondere auch die Edelsteine. Und hier geht es nicht um Magie, indem man über die Natur herrschen will, sondern alles ist ja bereits offenbart. Und es geht um den Glauben an Gott und an das Wort Gottes. Und sie hat uns mit ihrem Leben als Nonne ein wunderbares Beispiel gegeben.
La psychothérapie de Saint Hildegard est donc une spiritualité de résolution des contraires de nos profondeurs psychiques. Cette conception est moderne. Déjà dans la première moitié du XXe siècle, avec la psychanalyse jungienne, ce que je vous disais avec le processus d'individuation, aboutit, après l'opposition de profondeur, à une complémentarité avec la notion d'animus et d'anima. Et même Freud avait évoqué les pulsions de mort et des pulsions de vie vers la fin de sa vie. Les courants plus récents envisagent de susciter nos ressources positives, souvent restées enfouies, et ceci par des thérapies de plus brève durée. Je parlerai notamment du psychiatre Milton Erickson, j'y reviendrai tout à l'heure, et surtout les thérapies comportementales et cognitives, les TCC, qui sont très en vogue. Il est établi que la négativité, le stress nocif détruisent la santé. A contrario, la prière, les émotions et pensées positives, et surtout l'amour, sont bénéfiques. Par exemple, ceci a été démontré sur la cicatrisation, la tension artérielle, le taux sanguin de cholestérol, la digestion, l'immunité, la réduction des douleurs. En pratique,
bei der Psychotherapie nach Hildegard handelt es sich also um eine Verinnerlichung der Auflösung der Gegensätze in unserem Innersten. Und diese Auffassung ist durchaus modern. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Psychoanalyse nach Jung oder auch nach Freud hat man das beobachten können. Die jüngsten Strömungen versuchen, unsere positiven Ressourcen, die häufig bei diesen kurzen Therapien verschlossen bleiben, zu wecken, hervorzurufen. Hier beziehe ich mich vor allen Dingen auf den Psychiater Milton Erickson, auf den ich noch zu sprechen komme. Es ist allgemein anerkannt, dass das Negative, der schädliche Stress der Gesundheit schaden und im Gegenzug dazu das Gebet, die Emotionen und die positiven Gedanken, insbesondere die Liebe, sich positiv auswirken. Beispielsweise auf die Wundheilung, den Blutdruck, den Cholesterinspiegel, die Verdauung und so weiter.
En pratique, d'après les travaux de Wigard-Strelow, on peut proposer de reconnaître les problèmes physiques et leur correspondance avec le système nerveux autonome, comme Wigard le rappelait tout à l'heure, ce qui permet de situer les vices à leur place dans le corps, selon la vision de Saint Hildegard du livre des mérites de la vie, avec la tête, le tronc, les cuisses, les jambes et les pieds. On peut aussi faire repérer par le patient les vices qui l'interpellent, d'après le tableau de ses 35 vices et vertus. On peut proposer la lecture d'extraits de paroles attribués aux vertus correspondantes, et retenir celle qui touche vraiment le cœur du patient. Il s'agit alors d'une démarche beaucoup plus de ressenti émotionnel que de réflexion intellectuelle. Il s'agit de descendre dans le cœur. Bien sûr, envisager aussi l'amitié et l'aide des anges, en particulier le septième cœur, celui des vertus. Prodiguer des paroles de compassion et d'invitation à pardonner selon les blessures reçues, et avoir recours aux remèdes et recommandations spécifiques à chaque vice.
Was bedeutet das für die Praxis? Man kann also die körperlichen Beschwerden und ihre Entsprechungen an dem autonomen Nervensystem zuordnen. Damit kann man die Laster im Körper finden, soweit die Vision von der heiligen Hildegard. Man kann zudem auch mit dem Patienten die Laster finden, Orten, die ihn beschäftigen, die ihn belasten, und das anhand der Tabelle der 35 Tugenden und Laster. Man kann auch die Lektüre von Auszügen der entsprechenden Worte und Sätze der Tugenden heraussuchen und anbieten und jene berücksichtigen, die den Patienten tief im Herzen, in seinem Innersten berühren. Und es geht da eher um ein emotionales Empfinden als um ein Nachdenken, ein rationales Denken. Auf diese Weise kann man eben das Herz, die Dimension Herz ansprechen, die in den Heiligen Schriften so wichtig ist. Man kann auch die Freundschaft und die Hilfe der Engel mit einbeziehen. Hierzu verweise ich an den 7. Chor, den der Tugenden. Man kann auch Worte des Mitgefühls oder eine Einladung zur Vergebung fördern. Und man kann auf Heilmittel zurückgreifen und entsprechende spezifische Empfehlungen für jedes Laster geben.
Voyons donc un peu ce catalogue des 35 vices et vertus, mais je m'arrêterai surtout sur un ou deux exemples, car ce serait trop fastidieux autrement.
Wir schauen uns jetzt einmal die Tabelle der 35 Laster und Tugenden an, aber ich werde mich nur auf einige wenige beschränken.
Selon le livre des mérites de la vie, nous avons 5 grands groupes de vices et de vertus, avec le premier composé de 7. Et en premier, l'amour célestis, qui s'oppose à amor séculi. Amor séculi, c'est l'amour du monde visible, des choses de ce monde. Et amor celestis, c'est l'amour du monde céleste. Dans le livre des mérites de la vie, Hildegard décrit l'allégorie du vice, un homme nu, noir, entourant un arbre. Il cueille des fleurs et il dit « Toutes les ressources de ce monde sont à moi. Je ne reconnais que le monde autour de moi et aucune autre vie. » Et aussitôt, l'arbre s'écroule. Alors que la vertu qui n'est pas représentée dans le livre des mérites de la vie, les vertus sont représentées dans le Scivias. Nous y reviendrons après. Mais elle lui répond cette parole qui peut être une parole de guérison de ce vice, la vraie vie, est toujours jeune et belle. Je suis rempli d'harmonie céleste et j'aime la vraie vie. Je suis le miroir de toutes les vertus dans lequel tout fidèle puisse s'éveiller et devenir visible. Et ceci est corrélé avec les yeux et l'on peut conseiller à ce moment-là le vin à la topaze d'or.
Kommen wir nun zu der Gegenüberstellung. Es gibt 5 Gruppen und die erste Gruppe besteht aus 7. Es beginnt mit der weltlichen Liebe, gegenübergestellt ist die himmlische Liebe. Bei der weltlichen Liebe geht es um Liebe für Dinge dieser Erde, für die sichtbare Welt, für materielle Werte, für das Ego, für das äußere Bild, für die spirituelle Finsternis. Die Allegorie, die Hildegard hier beschreibt, ist ein nackter, schwarzer Mann, der einen Baum umarmt und Blumen pflückt. Und er sagt, all die Ressourcen dieser Welt gehören mir. Ich kenne nur die Welt um mich herum und kein anderes Leben. Bald darauf stirbt der Baum. In der Gegenüberstellung die himmlische Liebe. Liebe für die himmlische Welt, für das Unsichtbare, die spirituellen Werte. Die Worte der Heilung wären, das wahre Leben ist immer schön und jung. Ich bin voll himmlischer Harmonie und ich liebe das wahre Leben. Ich bin der Spiegel aller Tugenden, in dem sich jeder Treue selbst erwecken kann und sichtbar werden kann. Eine Krankheit könnte auch die Augen betreffen und hier könnte man als Heilmittel den goldenen Topaswein verwenden.
Les 7 premières vertus correspondent à la tête. Et les 5 premières aux 5 sens. C'est pourquoi la première correspond aux yeux, à la vue pour Saint-Hildegarde. Et je vais passer tout de suite à la 4e, Misericordia, qui est quasi medicina, d'après Saint-Hildegarde, quasiment une médecine à part entière. C'est pourquoi je m'y arrête un peu plus. La Misericordia répond aux vices. Obduratio, qui est l'égoïsme, la dureté de cœur. L'allégorie de ce vice est comme une fumée dense, immobile, de la taille d'un homme, avec de grands yeux noirs, et qui dit « Je n'ai vraiment rien fait, et donc ne porte aucune responsabilité. Tout m'est complètement indifférent. Je ne connais donc que moi-même, et chacun devrait en faire autant, ne se soucier que de soi-même. » On voit bien l'actualité de certaines paroles, hein. De nos jours, c'est toujours valable. Misericordia, la compassion, la miséricorde, la bonne volonté. Les paroles de cette vertu répond notamment, entre autres, « Les herbes et les plantes abondent sur terre et chacune émet un parfum délicieux, tandis que chaque pierre précieuse disperse son éclat à toutes les autres. La création tout entière aspire à l'affection et à l'amour. Elle se tient au service de l'humanité et donne le meilleur d'elle-même, comme cadeau, sans rien attendre en retour. Je suis comme la rosée, dotée d'une puissante énergie de vie, la viriditas dont nous venons de parler, un doux remède pour chacun. Mon cœur est rempli d'amour pour ceux qui ont besoin de mon secours. J'existe depuis l'origine de la vie, depuis que le fiat, que cela soit, a créé le monde. Mes yeux voient sans cesse ce qui doit être vu. Je me sens responsable et je guéris les malades. Je suis un doux remède pour tous. Ma compassion est sincère. » Et Vigard Strelo rappelle à ce propos les 7 lois de la compassion. Une nourriture saine et naturelle, de l'eau pure, des boissons naturelles, des vêtements le plus possible en fibres naturelles, des maisons écologiques en pierre ou en bois, des remèdes naturels, de rester libre et non pas dépendant, différentes formes d'addiction. Et il faut vraiment enterrer les humeurs morbides, les obsessions et les dépendances, et avoir des paroles prudentes. Cela rejoint aussi la modération, une vertu essentielle selon saint Hildegarde.
Diese 5 Gruppen beschreiben auch die 5 Sinne des Körpers. Deshalb war hier bei dem ersten auch die als betroffenes Körperorgan das Auge genannt. Ich springe direkt weiter zur Numero 4. Hier sind Obduratio und Misericordia einander gegenübergestellt. Obduratio steht für Egoismus, Hartherzigkeit, Unachtsamkeit, Gefühlslosigkeit, Grobheit. In der Allegorie wird gesagt, es ist wie ein dichter, unbeweglicher, schwarzer Nebel in Form eines Mannes mit großen, schwarzen Augen. Und er sagt, ich habe nichts getan, also habe ich auch keine Verantwortung. Mir ist alles egal. Ich kenne nur mich selbst, ich kümmere mich nur um mich selbst. Und jeder sollte es genauso tun, sich nur um sich selbst sorgen. Sie sehen, hier ist noch immer eine gewisse Aktualität in den Worten. Demgegenüber steht Misericordia, die Barmherzigkeit, das Mitgefühl, Güte, Wohlwollen, Nachsicht. Worte der Heilung sind folgende. Pflanzen und Kräuter sind auf der Erde reichlich vorhanden und sie duften herrlich. Während jeder einzelne Edelstein seinen Glanz auf die anderen überträgt und strahlt. Die gesamte Schöpfung strebt nach Zuneigung und Liebe. Sie steht im Dienste der Menschheit und gibt ihr Bestes als Geschenk, ohne etwas als Rückgabe zu erwarten. Ich bin wie der Tau. Ich habe eine große Lebensenergie, die Viridas. Ich bin ein sanftes Heilmittel für jeden. Mein Herz ist voller Liebe für all jene, die sie brauchen, die meine Hilfe brauchen. Ich existiere seit Anbeginn des Lebens. Meine Augen sehen ununterbrochen, was passiert und was gesehen werden muss. Ich fühle mich verantwortlich und ich heile die Kranken. Ich bin ein sanftes Heilmittel für alle. Mein Mitgefühl ist aufrichtig. Ratschläge, auch von Vigard Strelo, wären hier diamanthaltiges Wasser, und auch die 7 Gesetze des Mitgefühls, also eine gesunde und natürliche Ernährung, reines Wasser, natürliche Getränke, Kleidung insbesondere aus Naturfasern, natürliche Häuser aus Stein oder Holz gebaut, natürliche Heilmittel und auch, dass man wirklich diese negativen Gedanken oder Gefühle beiseite legt und verschließt.
Bien entendu, chaque niveau est important et on pourrait y rester des heures. J'ai eu l'occasion déjà de présenter ces vices et des vertus lors de sessions d'université d'été que nous faisons depuis 12 ans en France. et aussi lors de sessions de guérison intérieure pour une retraite de quelques jours, en parlant des vices et de vertus que j'ai déjà eu l'occasion de faire à deux reprises, en 2004 et en 2007, avec comme fruit essentiel, remarqué, voilà, je passe sur les 35, nous n'avons pas le temps, et ce n'est pas mon but de présenter ce que vous trouverez dans les ouvrages de Vigard Strehlo sur l'ensemble, voilà, la deuxième, les vices et les vertus, troisième partie, 16 à 22, l'humilité,
la charité. Einmal alle zusammen aufgeführt. Ich zippe da jetzt ein bisschen durch. Sie sehen das im Hintergrund, weil wir nicht genügend Zeit haben. Aber ich hatte bereits mehrfach die Gelegenheit, das alles auch intensiv auf Seminaren und Sitzungen anzuwenden. Und anlässlich von Sommeruniversitäten, eine hatten wir im Jahr 2004, eine 2007. Also da habe ich schon mal die Möglichkeit gehabt, auch das intensiver anzuwenden und habe auch Erfahrungsberichte.
Voilà, ces différents tableaux avec sur la colonne de gauche le vice comme desperatio ici, la 21e couple de vice et de vertu auquel s'oppose spes. Tout ceci est tiré du livre des mérites de la vie avec toujours le même principe. L'allégorie du vice est décrite par saint Hildegarde. Ce personnage dit une parole, voilà, il s'exprime, il exprime souvent hein, ces tendances que nous retrouvons dans notre monde d'aujourd'hui. Et la vertu, qui n'est pas décrite dans le livre de mérite de la vie, mais qui est décrite dans le Skivias, la répond sous forme d'un dialogue qui s'oppose au vice. Il est essentiel dans ce catalogue, évidemment, de ne pas s'y attarder systématiquement. Oui, je signalais aussi que dans le Skivias, il y a deux autres vertus qui interviennent, en plus de celles du livre des mérites de la vie, la grâce de Dieu et la sagesse, ce qui nous mène à 37. Et puis, il y en a une supplémentaire dans l'Ordo Virtutum, qui est l'innocence, donc ça fait presque 38. Enfin, on va rester sur la base des 35.
Das Ganze folgt immer demselben Prinzip. Es werden eine Tugend und eine Laster einander gegenübergestellt und von Hildegard beschrieben. Und diese Tugend und das Laster werden als Personen beschrieben, die dann etwas sagen, wobei festzuhalten ist, dass die Tugend nur in Skivias angeführt ist. Und dort sind auch noch zwei weitere Tugenden angeführt, die Gnade Gottes und die Weisheit, insofern also eigentlich 37 Tugenden.
Voilà, bien sûr, pour une pratique, c'est essentiel que chacun puisse être interpellé par une parole de guérison de l'une de ses vertus ou de plusieurs de ses vertus qui peut correspondre donc au problème intérieur à résoudre, même si en grande partie il reste très inconscient.
In der Praxis bedeutet das also, dass jemand diese Worte der Heilung spricht, die dann auch zu seiner Heilung führen können, aber während der Patient das spricht, er es im Prinzip unbewusst tut.
En tout cas, dans tout cela, la grande leçon de saint Hildegarde, c'est de noter la responsabilité libre de chaque être humain. C'est fondamental. Il ne s'agit certes pas de mettre en avant honte ou culpabilité, souvent en ligne de mire dans la psychanalyse. Mais résoudre des problèmes psychiques ne devrait pas conduire, à contrario, de la culpabilité au laxisme, au laisser-faire, ou à la seule prévarication de nos droits, qui sont des leurs d'une prétendue liberté, évitant l'aspect non moins réel de nos devoirs. La tendance pourrait aller vers un certain hédonisme, une vie centrée sur des plaisirs égoïstes, voire un individualisme ou un nombrilisme.
Die freie Verantwortung des Menschen spielt bei der heiligen Hildegard eine ganz wesentliche Rolle. Es geht sicherlich nicht darum, das Schamgefühl oder das Schuldgefühl in den Vordergrund zu stellen, wie es in der Psychoanalyse heutzutage so häufig der Fall ist. Man kann aber die psychischen Probleme nicht dadurch lösen, dass man das Ganze dann umwandelt, dass dann aus der Schuld oder aus dem Schuldgefühl eine Nachlässigkeit entsteht. Also es könnte eine gewisse hedonistische Tendenz entstehen, ein Leben, das sehr egoistisch ausgerichtet ist, vielleicht sogar ein Individualismus, eine große Ich-Bezogenheit, diese Gefahr bestünde.
L'être humain est un être de relation. Il se construit dans un environnement d'interrelation. Avec Saint-Hildegarde, il s'agit plutôt d'une responsabilisation, un engagement vital et un processus qui débute par une information suffisante et qui met sur la route d'une véritable liberté dans le respect d'autrui et du bien commun. L'exposé des 35 vices et vertus avec les tableaux en deux colonnes tels que vous l'avez vu défiler peut nous aider à établir des repères.
Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Er lebt in einer Welt und Umgebung von Wechselbeziehungen. Bei der heiligen Hildegard handelt es sich eher um eine Art der Verantwortlichmachung, ein Prozess, der damit beginnt, ausreichend Informationen zu erhalten und der dann zu einer wirklichen Freiheit führen kann, immer unter Achtung des anderen und unter Achtung des Gutes der Allgemeinheit. In der Darstellung der 35 Laster und Tugenden, in dieser Tabelle, in der Gegenüberstellung der Spalten, können wir also eine Hilfe finden, um Orientierungspunkte festzulegen.
Voilà, et la 35e vertu qui couronne l'ensemble, la joie céleste, qui est la, le grand message de Saint-Hildegarde. On trouve en tout cas avec cette psychothérapie une grande cohérence par rapport à la doctrine sociale de l'Église et à une écologie humaine chrétienne pour un vivre ensemble heureux et harmonieux.
Die 35 Tugenden stehen also im Grunde über allem und bilden sozusagen die Krone. In dieser Psychotherapie findet man jedenfalls einen großen Zusammenhang, eine große Verbindung mit der Gesellschaftsdoktrin der Kirche und auch eine Art christliche Humanökologie, um in Glück und Harmonie zusammenleben zu können.
C'est la fin de ma première partie d'une présentation assez classique de ce catalogue de vices et vertus. Mais s'agit-il d'une simple liste ? Quelle progression vers les vertus ? Comment faut-il faire ? S'entraîner tout seul ? Abandonner tout recours à un excès de volonté, de rationalité, se laisser porter par les événements ? Rigueur ou souplesse ou même insouciance ?
Damit endet quasi der klassische Teil meines Vortrags. Und jetzt stelle ich mir die Frage, handelt es sich hier um eine einfache Auflistung? Welche Entwicklung gibt es? Muss man sich jetzt anstrengen, voranzukommen? Muss man asketisch leben? Sollte man in irgendeiner Form alleine üben? Oder sollte man vielleicht vollkommen verzichten auf zu viel Willenskraft, Rationalität? Sollte man sich treiben lassen von den Ereignissen?
C'est là où la formation avec la pratique d'un psychiatre américain génial du XXe siècle, Milton Erickson, m'a éclairé sur la correspondance avec la psychothérapie de Saint-Hildegarde.
An diesem Punkt haben Milton und Erickson mir quasi die Erleuchtung gebracht, um mir zu helfen, wie ich diese Ansätze von Hildegard auch betrachten oder nutzbar machen kann.
Et on rejoint ici un tableau que proposait aussi Jung d'un équilibre, d'une troisième voie d'équilibre, fortement proposée par Saint-Hildegarde, un juste milieu entre la raison et l'intuition, les pensées et les sentiments, ainsi que les sensations et l'intuition. Et bien souvent, notre rationalisme ambiant nous a menés dans un profond déséquilibre.
Hier sehen wir das Viereck von Jung, der eben die Ansätze von Hildegard auch hier im Prinzip enthalten hat, die Gefühle und die Intuition, die Gedanken und auch die Sinneseindrücke. Die Rationalität führt viel zu oft dazu, dass wir in ein Ungleichgewicht fallen.
De toutes ces leçons de thérapie brève, y compris avec l'apport d'un médecin suisse Vitoz, qui propose une méthode de rééducation cérébrale, eh bien, on en vient à découvrir un nouvel équilibre neurophysiologique.
Mit Hilfe eines Schweizer Arztes Vitoz wurde eine Methode entwickelt, die sich
Vitoz, la rééducation cérébrale, mais je vais proposer un exemple. Voilà.
Wir kommen dann direkt zum Beispiel, das macht es leichter.
Un meilleur équilibre cérébral, voilà.
Es kommt jedenfalls an zu einem besseren Gleichgewicht im Gehirn.
Car pourquoi et comment pouvons-nous envisager de changer? C'est en fait une stratégie du changement utile et bénéfique. Quand il s'agit de passer de vices à des vertus, comment pouvons-nous changer?
Die Frage ist, wie kann man sich denn verändern? Wie kann man aus einem Laster eine Tugend machen?
Le système nerveux nous donne une très bonne nouvelle.
Das Nervensystem hat da eine ganz hervorragende Neuigkeit für uns.
La première chose, nous avons des cellules souches dans le cerveau. Les cellules se renouvellent, notamment pour la mémoire, l'apprentissage.
Wir haben also Zellen, Gehirnzellen, die immer, sich immer wieder neu entstehen.
Voilà, se
renouvellent. Und damit sich mal erneuern und dadurch auch Neues aufgenommen werden kann.
Nous avons redécouvert ça il y a 20 ans, 30 ans. Alors
das
qu'avant,
wurde vor 20 oder 30 Jahren entdeckt.
On naît avec un capital neurone qui se détruisent petit à petit tout au long de notre vie.
Davor ist man davon ausgegangen, dass sie alles nach und nach abbaut und dass es leider keinen Hoffnungsschimmer gibt. Das ist falsch.
La deuxième chose, les connexions, les synapses, les connexions entre les neurones. Il y a 100 milliards de neurones. Chaque neurone a 10 000 connexions. Tout cela peut aussi changer, les réseaux peuvent se moduler. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Il y a une souplesse de remise en état de notre cerveau.
Die zweite gute Neuigkeit ist, dass die Verbindungen, die Synapsen im Gehirn beweglich sind. Also im Grunde, dass auch dort Veränderungen entstehen können. Wir haben 10 Milliarden Synapsen und die wiederum haben Zehntausende von Verbindungen. Also es ist eine stetige Veränderung möglich. Das Ganze nennt man Plastizität des Gehirns.
Et avec Milton Erickson, les thérapies brèves qu'il a proposées montrent que les changements utiles sont parfois très rapides.
Und Erickson und Milton haben gezeigt, dass diese Veränderungen häufig sehr schnell und auch sehr gut sein können und vollzogen werden können.
Voilà une connexion entre deux neurones.
Hier sieht man eine
C'est tout à fait mystérieux. Nous entrons dans le domaine du cerveau grâce à l'imagerie. L'IRM, voilà le,
wir haben inzwischen oder heutzutage einen Einblick in das Gehirn dank des MRTs.
Il y a une certaine spécialisation de nos hémisphères cérébraux. Chez la plupart des droitiers, les centres du langage sont à gauche. Vous voyez ici représentés les deux centres du langage fondamentaux, l'aire de Broca, ici en antérieur, qui porte sur l'expression verbale et l'écriture. Et ici, je ne vise pas bien, voilà, le centre du langage postérieur, l'aire de Wernicke, qui concerne la compréhension et la lecture.
Also die Gehirnhälften, da wird ja jeder Gehirnhälfte auch bestimmte Fähigkeiten zugeordnet. Bei Rechtshändern zum Beispiel liegt das Zentrum für Sprache auf der linken Gehirnhälfte und hier haben wir gerade mit dem Laserpointer gesehen, das Broca-Zentrum für die Sprache.
C'est d'ailleurs que je suis à la page 8, c'est pour ça. J'ai fait 8, pour faire plus vite. Est-ce que le temps... Ok. Voilà des coupes cérébrales, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Là, une image pour rappeler un peu la tendance fonctionnelle de nos hémisphères cérébraux. À gauche, donc, plutôt le langage. Ah, pardon. Voilà, je reviens. À gauche, donc, plutôt le langage. Et sur le plan des lobes frontaux, une sorte de raisonnement de type rationnel, analytique. C'est ce qui prévaut dans l'éducation actuelle. Et à droite, plutôt une vision holistique, la sensibilité à l'art, sur le plan musical, à la mélodie, et quelque chose qui a été mis en évidence, ça fait trop, par Sir John Eccles, qui a eu le prix Nobel de neurologie en 1964, Sir John Eccles, qui a parlé de l'imagination créatrice. Ça fait la dignité de l'être humain avec le langage. Capacité de langage, plutôt à gauche, capacité d'imagination créatrice de notre hémisphère droit. Le principal, c'est qu'il y ait les réseaux et échanges entre les deux.
Ich kürze das mal ein bisschen ab. Wir haben eben einige Bilder gesehen, da ist nicht für alles Zeit, aber hier sieht man noch einmal auf der linken Seite eher Zentrum für Sprache, das Rationelle, das Analytische, auf der rechten Seite eher ein ganzheitlicher Ansatz, das Musikalische, das Musische. Und der Neurologe Sir John Eccles, der auch einen Nobelpreis in Medizin bekommen hat, hat eben eine große Entdeckung bei der Verbindung der Synapsen festgestellt und gesagt, dass dort durchaus eine Verbindung besteht.
Et avec l'IRM fonctionnel, on peut même voir les zones qui travaillent préférentiellement dans le cerveau, montrer à quel point nous fonctionnons sous forme de réseau de mémoire, réseau d'intelligence.
Und dank des MRTs können wir eben heute auch sehen, welche Gehirnbereiche aktiv sind bei welchen Tätigkeiten. Das sieht man jetzt hier, welches markiert ist.
Mais lorsque nous subissons les images de l'extérieur par la télévision, les films, nous faisons fonctionner que 20% du cerveau, alors que lorsque nous suscitons les images par des lectures approfondies ou par la méthode des allégories avec Saint-Hildegarde, nous faisons fonctionner 80%.
Man hat festgestellt, wenn man passiv ist und sich beispielsweise einfach nur vor den Fernseher setzt und etwas passiv wahrnimmt, dass wir nur 20% unserer Gehirnbereiche oder dass nur 20% aktiviert werden. Hingegen, wenn wir selbst Bilder hervorrufen, wie es auch durch die Allegorie von Hildegard vorgeschlagen wird, damit nutzen wir 80% der Gehirnareale.
Et il vaut mieux avoir 80% du cerveau qui fonctionne pour préparer à un changement utile de notre vie, de nos comportements, que d'avoir seulement 20%.
Und es ist natürlich logisch, dass man eher mit 80% der genutzten Gehirntätigkeit eine positive Veränderung in unserem Leben herbeiführen kann, als nur mit 20.
Avec les thérapies brèves, notamment Milton Erickson, qui utilisait beaucoup les images, les symboles, les anecdotes, les histoires qu'il racontait à ses patients, de façon pertinente et adaptée, bien sûr, eh bien, il suscitait des changements très rapides, profonds, voire définitifs et bénéfiques pour ses patients.
Erickson und Milton haben mit ihrer Therapie oder haben bei ihren Therapien vor allen Dingen mit diesen Bildern und Symbolen und Anekdoten gearbeitet und haben dadurch dann auch bei den Patienten diese Vorstellung hervorgerufen. Und auf diese Weise konnte es eben zu einer tiefgreifenden, schnellen und positiven Veränderung kommen.
Avec Saint-Hildegarde, en cohérence avec l'art thérapeutique et pédagogique à la fois des métaphores et des allégories, ces visions inspirées et leur interprétation, car elles recevaient les interprétations par inspiration de ces visions, qui restent dans un certain mystère, certes, accompagnées des paroles de la vertu correspondante aux vices à corriger, peuvent donc être proposées à tout être humain dans le but d'une élévation de l'âme et d'une guérison psychospirituelle profonde, à condition de lui laisser éclore sa propre imagination créatrice dans un certain état de méditation et de réceptivité intérieure.
In Einklang mit der therapeutischen und pädagogischen Kunst, den Metaphern und den Allegorien und Apologen, den erleuchteten Visionen und auch deren Auslegung, die natürlich immer auch in einem gewissen Mysterium verbleibt, und zusammen mit den Worten der Tugenden zu den entsprechenden Lastern, die dort zu beheben sind oder zu korrigieren, kann man also jedem Menschen eine Hilfe anbieten mit dem Ziel, seine Seele zu erheben und eine tiefgreifende psychospirituelle Heilung zu erfahren. Denn auf diese Weise überlässt man ihm selbst seine eigene kreative Vorstellungskraft in einem gewissen Meditationszustand und im Zustand der inneren Aufnahmefähigkeit.
Et je vais vous proposer maintenant un exemple avec la vertu de miséricorde, sur lequel je vais revenir, misericordia, quasi medicina, en tenant compte cette fois-ci des écrits du Skivias que je vais ajouter et qui va permettre de décrire le contexte général, la position de la vertu et surtout comment se présente cette vertu, de telle manière que vous ayez une évocation imagée de cette vertu en vous-même. Et ce sera votre propre image qui compte et pas celle du voisin. C'est important que chacun fasse ce travail intérieur.
Jetzt würde ich gerne Sie aktiv mit einbinden und einmal auf die Misericordia aus dem Buch Skivias eingehen und versuchen, dass bei Ihnen selbst Bilder hervorgerufen werden, die dann ganz individuell sind und sich von denen Ihres Nachbarn unterscheiden.
Et tout d'abord, je vous propose de bien sentir votre corps, de vous sentir bien positionné. C'est une approche de type Vitose ou même avec Milton Erickson. C'est le vestibule, l'entrée en matière. Vous vous sentez bien assis sur votre siège.
Zuerst einmal möchte ich Sie bitten, sich richtig hinzusetzen, so dass Sie bequem sitzen. Dieser Ansatz folgt auch Vitose.
Voilà. N'hésitez pas à réajuster votre position si vous en ressentez le besoin, en toute liberté.
Fühlen Sie sich ganz befreit, also so, dass Sie bequem sitzen können.
Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, peut-être vous avez envie de penser à autre chose.
C'est, Sie müssen auch nicht genau
c'est
das
toute
machen,
votre
Sie
liberté.
Jetzt sage, Sie können auch Ihren eigenen
propose,
Gedanken nachhängen.
Mais n'impose pas.
Ich mache hier nur Vorschläge, aber ich gebe Ihnen hier keine Vorgaben.
Et dans cet état de calme, vous êtes dans le calme, on sait que le calme est une prédisposition à développer la confiance.
So, Sie sollten jetzt in einem Zustand der Ruhe sein und die Ruhe
quelque
fördert ja auch Vertrauen.
La position de vos bras, de vos mains.
Konzentrieren Sie sich auf die Position Ihrer Arme und Ihrer Hände.
Si vous voulez garder les yeux ouverts ou les laisser se fermer, cela n'a pas d'importance.
Sie können die Augen zumachen oder offen lassen, wie Sie möchten.
Vous laissez votre respiration s'adapter.
Atmen Sie jetzt ruhig.
Tout simplement.
Ganz natürlich.
Naturellement.
Ganz einfach.
Quelques instants de calme. Sentez vos pieds, vos mains, tels qu'ils sont positionnés. Et n'hésitez pas, encore une fois, à bouger si vous en ressentez le besoin pour rester confortable. Sentez-vous bien adossé.
Das machen Sie jetzt einfach so einen Moment. Ich möchte, dass Sie bequem sitzen, dass Sie sich wohlfühlen.
Voilà. Les vertus. Le Seigneur a dit à Saint Hildegarde, dès lors, tu vois que ces images prononcent chacune des paroles particulières par le mystère de Dieu pour donner un avertissement aux hommes. C'est que par toutes ces vertus, dans une très douce suavité, la piété de Dieu enseigne, en les exhortant, les esprits des peuples pour que ceux-ci rejettent le mal et se dressent vers le bien. Ce n'est pas...
Du siehst, dass die Bilder, die von jedem dieser speziellen Worte hervorgerufen werden, durch das Geheimnis Gottes, um den Menschen eine Warnung zu geben, etwas Besonderes sind. Durch all diese Tugenden, in einer Sanftheit und der Frömmigkeit Gottes, werden dem Menschen der Geist gezeigt.
Ce n'est pas qu'une vertu soit une force vivante en elle-même, mais elle est seulement une sphère très lumineuse, brillant par Dieu dans l'action de l'homme. Car l'homme trouve son achèvement par les vertus, puisque celles-ci sont l'œuvre de l'homme qui œuvre en Dieu.
Es ist nicht nur eine Tugend oder eine lebendige Kraft in sich selbst, sondern es handelt sich einfach um eine sehr erleuchtete, glänzend strahlende Sphäre von Gott im Handeln des Menschen. Denn der Mensch findet seine Vollendung in den Tugenden. Denn diese sind das Werk des Menschen, das ihn zu Gott führt.
Les vertus sont décrites par rapport à des murs d'un édifice, comme une ville entourée d'une enceinte quadrangulaire, dressée sur une grande montagne, légèrement inclinée et dominée à l'est par le Christ. Le premier mur est lumineux, les trois autres sont faits de pierres entassées. Les cinq premières vertus, dont fait partie la miséricordia que nous allons voir, sont situées sur une tour dressée au milieu du mur d'une lumière du jour qui s'étend de l'angle est à l'angle nord.
Die Tugenden werden im Zusammenhang mit Mauern eines Gebäudes beschrieben, eines viereckigen Gebäudes, das auf einem Berg steht. Es ist leicht geneigt. Die erste Mauer ist erleuchtet und sehr hell. Die drei anderen sind aus Stein gemacht. Die fünf ersten Tugenden sind um einen Turm angesiedelt. In der Mitte der Mauer des Lichts, des Tageslichts.
La miséricorde est sous forme d'une femme. Elle regarde vers la colonne du Verbe de Dieu, au pied de laquelle se trouve le patriarche Abraham. Elle est vêtue de soie, chaussures blanches, revêtue d'une tunique blanche, la tête couverte d'un voile blanc, enveloppée d'un manteau jaune, avec sur la poitrine une image du Christ autour de laquelle est écrit « Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, grâce auquel l'Orient venu d'en haut nous a visités. »
Beschreibung der Miskordia. In Form einer Frau, sie schaut auf die Säule des Wortes Gottes. Zu ihren Füßen befindet sich Abraham. Sie ist in Seide gekleidet, trägt weiße Schuhe, eine weiße Tunika. Der Kopf ist verhüllt von einem weißen Schleier. Sie trägt einen gelben Mantel und auf der Brust zeigt sich ein Bild Jesus Christus, um das geschrieben steht: Aus dem Schoße der Barmherzigkeit unseres Gottes.
Et Saint-Hildegarde avec sa mission de guérison, aujourd'hui, à nouveau offerte à nous, avait reçu cette interprétation de la vision, disant que la miséricorde s'attache à l'incarnation du Fils de Dieu, Abraham préfigurant la miséricorde en offrant Isaac, puis lorsque le bélier était pris dans les épines. Elle a en elle-même vêtue de soie, une douceur et une suavité. Par ses chaussures blanches, elle suit la justice divine avec droiture dans la blancheur du royaume céleste. Elle est la mère la plus généreuse des âmes en perdition, la miséricorde écrasant la mort des âmes par son voile. Entourée du soleil véritable, Jésus, le manteau, placé dans la poitrine de la miséricorde quand il a été envoyé dans le ventre de la Vierge Marie. C'est un secret caché dans le cœur du Père. Le pain du ciel est venu d'en haut, sortant du cœur du Père.
Folgende Interpretation gebe ich dazu. Sie hängt sich an die Inkarnation des Sohn Gottes. Abraham steht für die Barmherzigkeit, indem er Isaak anbietet. Und der Widder ist in den Dornen verfangen. Sie, in Seide gekleidet, ist voller Zärtlichkeit und Weichheit. Sie folgt, weiße Schuhe, der göttlichen Gerechtigkeit aufrichtig in das Helle des himmlischen Königreichs. Sie ist die großzügigste Mutter der verlorenen Seelen. Frau. Die Barmherzigkeit übermannt die toten Seelen, der Schleier. Umgeben von der wahren Sonne ist Jesus auf der Brust der Barmherzigkeit zu sehen, gelber Mantel, und wurde in den Bauch der Jungfrau Maria entsandt. Das ist ein verstecktes Geheimnis im Herzen des Vaters. Das Brot des Himmels kam von oben herab, aus dem Herzen des Vaters.
Et vous entendez la voix de cette miséricorde qui dit « Je tends toujours mes mains vers les étrangers, les malheureux, les pauvres, les infirmes et ceux qui gémissent. »
Und jetzt stellen Sie sich die Stimme der Barmherzigkeit vor, die sagt: Ich reiche meine Hand den Fremden, den Unglücklichen, den Armen, den Verunsicherten und jenen, die stöhnen.
Et en complétant par le livre des mérites de la vie, les herbes et les plantes abondent sur terre et chacune émet un parfum délicieux. Tandis que chaque pierre précieuse disperse son éclat à toutes les autres. La création tout entière aspire à l'affection et à l'amour. Elle se tient au service de l'humanité et donne le meilleur d'elle-même comme cadeau sans rien attendre en retour. Je suis comme la rosée, dotée d'une puissante énergie de vie, viriditas, un doux remède pour chacun. Mon cœur est rempli d'amour pour ceux qui ont besoin de mon secours. J'existe depuis l'origine de la vie, depuis que le fiat, que cela soit, a créé le monde. Mes yeux voient sans cesse ce qui doit être vu. Je me sens responsable et je guéris les malades. Je suis un doux remède pour tous. Ma compassion est sincère.
Und zur Vervollständigung die Passage aus dem LVM. Kräuter und Pflanzen sind auf der Erde reichlich vorhanden und duften herrlich, während die Edelsteine ihren Glanz auf andere übertragen. Die gesamte Schöpfung strebt nach Zuneigung und Liebe. Sie steht im Dienste der Menschheit und gibt ihr Bestes als Geschenk, ohne dafür etwas wieder zu erwarten. Ich bin wie der Tau, mit einer Lebensenergie ausgestattet, Viritas. Ich bin ein sanftes Heilmittel für jeden. Mein Herz ist voller Liebe für all jene, die meine Hilfe brauchen. Ich existiere seit Anbeginn des Lebens. Meine Augen sehen ununterbrochen alles, was gesehen werden muss. Ich fühle mich verantwortlich und ich heile die Kranken. Ich bin ein sanftes Heilmittel für alle. Mein Mitgefühl ist aufrichtig.
Sainte Hildegarde est donc une thérapeute qui nous conduit à Dieu avec bonheur, en nous proposant ce qu'elle nomme la viriditas, énergie vitale fondamentale d'ordre universel. Elle mérite sans doute d'être un guide spirituel pour le troisième millénaire, lumière pour notre époque, comme elle fut présentée au congrès de Gand en juillet 2011. Sa médecine ainsi que sa psychothérapie chrétienne, harmonise les domaines physiques, psychiques et spirituels de l'être humain, anticipant au XIIe siècle la médecine psychosomatique et les thérapies psychospirituelles du XXIe siècle.
Die heilige Hildegard ist eine Therapeutin, die uns auf glücklichen Wegen zu Gott führt, indem sie uns das vorschlägt, was sie selbst Viriditas nennt, eine wesentliche Lebensenergie universeller Art. Zweifelsohne verdient sie es, zu einem spirituellen Wegweiser für das dritte Jahrtausend zu werden. Licht für unser Zeitalter. So wie es auch auf dem Kongress in Gent im Juli 2011 vorgestellt worden ist. Ihre Medizin und ihre christliche Psychotherapie bringen im Prinzip die körperliche, psychische und spirituelle Seite des Menschen miteinander in Einklang, indem sie bereits im 12. Jahrhundert die psychosomatische Medizin und auch die psychospirituellen Therapien des 21. Jahrhunderts vorweggenommen hat.
En pratique, je propose d'appliquer sa psychothérapie sous forme de sessions d'écoute et de visualisation des différentes vertus en fonction de besoins personnalisés, éventuellement avec sa musique, les vertus de la musicothérapie, en séance individuelle ou en séminaire par petits groupes, et d'en recueillir les témoignages. Nous pourrons alors recourir pleinement à Saint-Hildegarde pour le plus grand bien de l'humanité.
Für die Praxis schlage ich also vor, Ihre Psychotherapie in Form von Sitzungen, des Zuhörens und der Visualisierung der unterschiedlichen Tugenden ganz entsprechend der Bedürfnissen des Einzelnen anzuwenden. Unter Umständen auch gemeinsam mit Ihrer Musik. Das kann man in Einzelsitzungen oder auch in kleinen Gruppenseminaren durchführen und anschließend Erfahrungsberichte sammeln. Wir können also voll und ganz auf die heilige Hildegard zurückgreifen und das zum größten Wohle der Menschheit.
Je vous remercie de votre attention.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.